Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 11h midi, nous commentons l'actualité avec vous sur Facebook, sur le site de l'émission et puis également sur le site Sud Radio plus précisément et puis également sur Twitter, 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, le retour de Sophie de Menton pour cette nouvelle saison, tant attendue par nos auditeurs de Sud Radio.
Je ne voudrais des commentaires que des auditeurs qui me sont favorables, s'il vous plaît.
Bah écoutez, je pense qu'on peut aller prendre un café. Présidente de mouvement
éthique. Bon, bah, je vais y aller.
Christiane Villeneuve, journaliste politique, bonjour.
Bonjour.
Pierre Jouvet, porte-parole du PS,
bonjour.
Mathieu Alterman, journaliste et auteur. Votre dernier livre, c'est...
Femme fatale.
Femme fatale, absolument.
C'est permis, ça, comme titre?
Oui, j'ai encore le droit jusqu'à l'année prochaine.
Oui, parce que j'ai appris un truc tout à l'heure incroyable dans l'émission. C'est Gilles Ganzman qui nous disait, M6 va lancer une série adaptée du roman de Agatha Christie, Dix petits nègres. Et donc, ça ne s'appellera pas comme ça par politiquement correct, en fait, et ça va s'appeler
«
Ils étaient ». Voilà, « Ils étaient 10 » pour ne pas employer le mot de « nègre » et ne pas s'exposer aux foudres des...
C'est au-delà.
Voilà, enfin, c'est ce qu'on suppose, mais c'est fort probable, voilà. Allez, Sophie de Menton, Christiane Villeneuve, Pierre Jouvet, Mathieu Alterman, on est ensemble pendant une heure, on va parler de pas mal de choses. Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris, un affront fait à Macron. Est-ce qu'il faut l'exclure de La République En Marche? Non, a dit Emmanuel Macron. Dites tout ce que vous en pensez. La fraude sociale qui explose. Est-ce qu'il faut être plus sévère et en particulier cette proposition, une carte vitale à durée limitée, c'est-à-dire que tous les ans, apporter la preuve que vous êtes bien en vie, que vous êtes... Ben oui, parce que apparemment, il y a 80... J'ai pas le chiffre là sous les yeux. 85...
111 millions.
Oui, 111 millions de cartes vitales pour 65 millions
de Français. En même temps, les morts ne sont pas en bonne santé. Hein.
Ben voilà.
Quand même.
Et
quand même.
Moins de viande dans les cantines. Est-ce qu'on mange trop de viande dans les cantines scolaires? Allez, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sophie, on va commencer avec vous.
Ah, moi, j'ai eu un coup de cœur cet été. J'étais dans le Jura, dans un petit village qui s'appelle Choisé, et je rencontrais un menuisier qui s'appelle Baptiste, je dis tout, et qui était promoteur d'une association qui s'appelle L'Outil en Main. D'abord, il faut savoir que ce menuisier avait un talent fou, que c'est vraiment les métiers de la main qui sont pratiquement artistiques dans certains cas, et que L'Outil en Main, ce sont des artisans qui ont décidé d'aller dans les écoles et de mettre les enfants dans les ateliers, leur mettre un outil dans la main, de leur faire construire quelque chose, etc.
En fait, tout ce qui est,
et c'est extraordinaire, je veux dire, spontanément, les enfants ont un vrai talent pour ça, et je crois que c'est vraiment un challenge français incroyable de revaloriser ces métiers manuels. Et au mouvement éthique que je préside, on avait proposé de créer une université de la main. Et il faut redonner le nom des diplômes. On aurait une licence de menuiserie, on aurait... Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc je voulais un vrai coup de chapeau à L'Outil en Main. Et si tous les villages de France pouvaient un peu adhérer à cette association, ce serait très bien.
Christian de Villeneuve, oui, votre coup de cœur.
Eh ben écoutez, une fois n'est pas coutume, mais...
mais si vous êtes en train de devenir optimiste et positif, d'ailleurs vous avez vu dans le Figaro, je vous conseille l'article sur l'optimisme.
Oui, qui permet de vivre
plus longtemps.
Exactement. Voilà. Non, je veux dire un coup de chapeau à la Tunisie, qui se révèle une vraie démocratie.
Ça sur les vacances, ça?
Non, pas du tout. Non, parce que précisément, dans 15 jours, il y a une élection présidentielle, à la suite de la mort du président de la République cet été, et le processus électoral se révèle tout à fait à maturité, et tout se passe normalement. Il y a des sondages, des meetings, des débats, des débats contradictoires à la télévision. Résultat, il y a 26 candidats, ils goûtent à la démocratie, et 15 jours avant le scrutin, on ne connaît absolument pas le nom du futur président, ce qui est assez rare dans un pays arabe.
Ouais, on va voir la suite. Hein. Pour l'instant, vous êtes optimiste.
Non, mais après, on va voir le résultat. Mais justement, le résultat, on ignore absolument. Il y a des favoris, bien entendu, mais on ne connaît pas le résultat.
Mathieu.
Moi, c'est un coup de gueule. Je dois dire que j'en ai assez de voir des avocats, quels qu'ils soient, faire tous les plateaux, radio, télé, pour certaines affaires, et exprimer leur point de vue sans que jamais il y ait l'avocat adverse qui puisse dire quelque chose. Je fais allusion évidemment à l'affaire Yann Moix. On voit Maître Pierra, il est venu ici d'ailleurs, je croyais avant-hier, parler de quelque chose. L'avocat adverse a fait hier une émission sur Cyril. Voilà. On a eu auparavant, pendant 6 mois, l'avocat de Laetitia Hallyday qui faisait également tous les plateaux. Et en fait, ce qui m'ennuie, c'est que ça ne sert à rien. Quel est l'intérêt de recevoir un avocat sans qu'il y ait l'avocat de la partie adverse sur un média? Parce qu'il peut dire ce qu'il veut, c'est totalement vain et je ne comprends pas bien l'intérêt pour le client. réussissant au final. D'ailleurs, ça n'a pas spécialement réussi à Laetitia Hallyday ces derniers mois. Je ne comprends pas. Un avocat et un procès, c'est surtout dans les dossiers. Ce n'est pas uniquement sur les plateaux télé.
C'est les médias qui décident, pardonnez-moi.
Mais les avocats peuvent refuser.
Mais c'est à un moment...
Mais je pense que d'abord, c'est les médias qui sont responsables de ne pas faire la part des choses. Et deuxièmement, je pense qu'un avocat a-t-il intérêt à refuser d'aller parler de son client.
Il le fait pour sa propre promo. Moi, je dois dire que j'aime beaucoup Emmanuel Pira, que je connais un petit peu, mais je suis assez choqué de voir que même sur les réseaux sociaux, il s'exprime sur son affaire en cours.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie
N'a pas à faire partie, je suis désolé. S'il n'y a pas les arguments en face pour le contredire, c'est ridicule.
J'aurais juste faire une précision sur Sophie, parce que j'ai déjà des réactions, qui dit on se la coltinera toujours, c'est la grande copine de Valérie. Non, c'est pas... Je suis désolée. Je pense que la parole Parlons Vrai, Sud Radio Parlons Vrai. Donc je voulais faire ce préambule, j'ai oublié de le faire en début de semaine, de dire que la parole est libre, toutes les expressions, tout le monde a le droit de s'exprimer, et que c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qu'on doit recevoir que des gilets jaunes, ou que des gens d'extrême droite, ou que des gens d'extrême droite.
Sans compter que Valérie est copine avec tout le monde.
Bah oui, je suis très copine avec
Christine.
Pierre, on se connaît pas assez, mais j'aimerais bien être très copine avec vous. Et quand j'étais sur LCI, on avait des gens comme, je pense à Yvan Rioufol ou à Charb, hélas disparu, qui s'entendaient et qui arrivaient à se parler. Mettons-nous d'accord, qui est une expression qu'aime beaucoup Sophie, mais on peut se parler, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord et essayer de comprendre, d'écouter ce que l'autre a à vous dire. Là, on est dans un truc, moi je suis sidérée par les réactions. Vous voulez pas entendre Sophie? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, changez de radio, c'est pas très bien.
Non, mais où aller dans un pays non démocratique
ça, Non, restez avec nous, mais allez dans un pays non démocratique où vous n'entendrez qu'une parole. Ça vous agace, ça vous énerve. Il n'y a pas que Sophie, il y a d'autres gens, Yvan Rioufol des réactions. Donc c'est pas ma grande copine. Il se trouve qu'il y a des gens qu'on connaît qui viennent depuis longtemps et que moi j'apprécie le fait qu'il y ait une parole.
Ça commence
diverse.
Bien, Sophie.
Je vais vous donner la parole, Pierre Jouvet, dans un instant. Je voulais, parce que ça va susciter, je pense, le débat, votre coup de gueule d'aujourd'hui. Moi j'avais un coup de gueule sur Tariq Ramadan qui va sortir un livre le 11 septembre, Devoir de vérité. C'est aux presses du Châtelet. On m'a condamné avant de me juger. Je révèle ici tout ce qu'on vous a caché. Là aussi,
drôle de choix dans la date.
Voilà, absolument.
Sans jeu de mots.
Non, mais voilà, c'est quand même. Non, ça vous
êtes
pas.
Quelle date, c'est quand?
Le 11 septembre.
Oh, putain.
Hein, Tariq Ramadan qui sort un livre le 11 septembre, petit-fils fondateurs des Frères musulmans. Pierre Jouvet, ça vous interpelle aussi?
J'ai même pas envie de commenter Tariq Ramadan.
Oui. Non, mais c'est.
Tariq Ramadan.
Mais ceci dit, on arrive à un tel niveau d'indécence.
Oui, c'est ça.
On ne sait pas si c'est le Gorafi quand même. Ça pourrait être un article faux. Voilà.
Ouais. Alors Pierre, votre coup de gueule concerne la rentrée scolaire.
Ouais, mon coup de gueule concerne la rentrée scolaire et plus particulièrement la scolarisation des enfants handicapés, qui est une vraie problématique. Et on a été confronté en fin de semaine dernière dans la Drôme à une vraie difficulté où on a 240 enfants listés qui n'avaient pas de place, soit dans des écoles, soit dans des instituts médico-éducatifs, et qui se retrouvaient encore chez leurs parents parce qu'ils avaient un handicap. Et donc ça, c'est un vrai coup de gueule que je vais doubler d'un deuxième coup de gueule sur les propos de la secrétaire d'État en charge du handicap, Madame Cluzel, qui s'est permis de dire que c'était des fake news.
Alors on va l'écouter, elle était hier sur Sud Radio, écoutez.
Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle ne correspond à rien, cette liste. Je vais vous donner les chiffres très précis.
Elle ne compte pas les choses quand même,
Je vais vous donner les chiffres. Sur ces 240 enfants, 141 ont une solution de scolarisation ou sont déjà dans un autre établissement médico-social qui n'est pas géré par cette association. 17 sont plus en âge scolaire, 75 sont inconnus, ils ont déménagé, et 7 sont en solution qui sont temporaires. Moi, je dis aux familles, ces 7-là, eh bien, nous allons travailler pour améliorer.
Voilà, là, vous avez la technocratie dans toute sa splendeur.
Mais alors, fake news, c'est-à-dire que...
Non, pas fake news, mais en fait, Madame Cluzel se cache derrière une réalité administrative. C'est-à-dire que chaque enfant handicapé qui a une solution d'une heure d'accompagnement dans la semaine à l'école ou dans un IME est considéré comme un problème réglé. Mais allez dire ça aux parents qui ont des gamins handicapés dont c'est déjà assez compliqué, que parce que leur enfant a une heure de scolarité dans la semaine, le problème est réglé. Eh bien, Madame Cluzel, ce qu'elle fait là, c'est une honte. Parce qu'en plus de ça, elle jette le trouble sur l'association qui est l'ADAPEI dans la Drôme. Elle jette le trouble sur des bénévoles qui font tourner l'association. Et les parents, moi, j'ai rencontré ces parents dont on parle, la liste, là, les gens, là, elle dit une liste. Mais moi, j'ai vu des gens, j'ai vu les enfants handicapés, j'ai vu ceux qui n'arrivaient pas à être scolarisés. Mais on se retrouve dans un truc où, voilà, la déconnexion du politique de Madame Cluzel.
La déconnexion où elle n'a pas le choix. Elle est obligée de dire ça aussi.
Oui, si elle est obligée de dire ça, c'est dramatique. Plutôt que de prendre le taureau par les cornes, de mettre enfin des vrais moyens sur la table et de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces gamins handicapés ? Comment on fait pour les scolariser ? Est-ce qu'on crée des places d'IME supplémentaires ?
Je crois malheureusement qu'elle ne doit même pas être au courant, qu'elle a des conseillers autour qui lui font des...
Elle est très impliquée, Sophie.
Tout
est administratif autour d'elle, comme dans tous les ministères.
Mais elle avait été nommée secrétaire d'État, rappelons-nous, le président de la République l'avait d'ailleurs dit comme ça, secrétaire d'État en charge du handicap, parce qu'elle-même a un enfant handicapé, qu'elle connaît très bien le sujet. Et moi, je suis très surpris de cette réaction, extrêmement violente et très technocratique. Et moi, je l'invite vraiment à aller dans le terrain. Et j'invite à votre radio, Madame Cluzel, à venir dans la Drôme et qu'elle voit la réalité de ces familles pour parler directement avec eux. Elle verra que ce n'est pas une fake news.
Ces familles qui ont des enfants non scolarisés, elles existent, elles sont là.
Elles sont bien présentes et c'est
l'inverse.
Difficile.
C'est que vous êtes en train de dire que les chiffres ne reflètent pas la réalité.
Exactement.
Allez, je voulais vous faire réagir à ce que dit Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, ce matin dans Le Parisien. Elle dit qu'il faut arrêter de se parler par banderoles et chants interposés et que chacun se responsabilise à propos des insultes homophobe, etc. Donc ça veut dire quoi ? Qu'il faut plus de banderoles dans les stades, il faut plus de chants.
Qu'est-ce qu'elle propose ?
Moi c'est ce que j'ai compris. Donc on a eu un petit débat ici en disant mais non c'est pas ce qu'elle dit. Si c'est ce qu'elle dit quand elle dit il faut plus se parler par banderoles interposées.
On parle des propos homophobes dans les stades de football.
Oui.
Donc on rappelle juste que le prochain mondial de football sera au Qatar, qui est un pays où on assassine les homosexuels. Il faut juste rappeler ça.
Tout
d'accord.
À fait. Voilà. C'est très bien de le rappeler.
Oui. Il faut supprimer les banderoles, c'est qu'on va arriver dans un monde totalement aseptisé.
Mais en fait il faut pas supprimer les banderoles, mais il y a un moment, il faut juste arrêter d'être faux cul, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, la Coupe du Monde de football, elle va être organisée au Qatar, qui, comme tu viens de le rappeler, juste titre, tue les homosexuels, quand même. Et donc, la France, à l'époque, a soutenu, via l'UEFA, l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit un peu cohérent dans ce qu'on fait. Quoi.
Oui, mais donc cohérent, ça veut dire quoi ? Banderole ou pas banderole ?
Ah non, moi je pense qu'il faut maintenir des banderoles dans les stades. Enfin, il y a un moment, quand on va au stade, il faut maintenir des banderoles.
Enfin, une banderole comme ça au Qatar, si le match avait lieu là.
C'est pas pour ça, attention, hein, il faut sortir les chants homophobes des stades. Moi, je ne suis pas du tout sur ce sujet-là. Mais il faut laisser les banderoles dans les stades.
Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de la fraude sociale qui explose. Ou pas, parce que c'est un vieux sujet. On va en parler. Et puis, Villani, candidat à la mairie de Paris, qu'en pensez-vous ? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, 0826 300 300. Il y en a certains qui disent, mais pourquoi vous n'invitez pas des auditeurs ? Mais vous êtes invité tous les jours à parler, à vous exprimer. Si vous voulez venir débattre, pourquoi pas ? Moi, je suis tout à fait ouvert. Mais vous avez déjà le téléphone, 0826 300 300 pour réagir. Je suis avec Sophie de Menton, Christian de Villeneuve, Pierre Jouvet et Mathieu Alterman. Donc Cédric Villani va vraisemblablement annoncer sa candidature aujourd'hui, ça ne fait vraiment pas de suspense. Candidat lésé à l'investiture de La République En Marche, qui ne veut pas se rallier à Benjamin Griveaux, et donc ça risque d'être compliqué. Donc est-ce que là, pour le coup, pour Emmanuel Macron, c'est un sacré affront, non ?
Mais d'abord, je crois qu'il faut dire que l'élection à Paris est un enjeu national. Est un enjeu national parce que une défaite du candidat de Macron.
Ce sera
la défaite de Macron. Rappelez-vous la défaite de Giscard d'Estaing avec le candidat de Michel Dornano contre Chirac. Donc ça c'est la première chose. Donc c'est un enjeu national. Paris reste la capitale de la France. Après, moi je pense que En Marche, la machine à perdre est en route. Et que la seule solution pour eux... D'abord, on va voir si Villani est capable de déclencher une dynamique, parce que pour l'instant, il n'a quand même pas beaucoup de troupes, et je ne vois pas les moyens sur lesquels il peut s'appuyer, il peut avoir. Mais s'il perce dans les sondages, s'il y a une cote de sympathie, alors là, s'il enclenche une vraie dynamique, Macron sera obligé de choisir au mois de janvier. Et dans ces cas-là, il y a l'ombre d'Edouard Philippe qui plane sur l'élection. C'est ça l'enjeu.
Vous croyez qu'il peut encore y aller, Edouard Philippe ?
Au dernier moment, je pense qu'Edouard Philippe, il a une cote. je crois qu'il serait élu. Mais d'un autre côté...
Pour l'instant, Hidalgo engrange. Oui, elle engrange actuellement.
Elle engrange, c'est vrai. Mais alors maintenant, le vrai sujet, est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un d'efficace comme Premier ministre ou un maire de Paris ? Moi, je trouve que remplacer le Premier ministre, ce serait pas évident. Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Il va pas être Premier ministre à vie.
Oui, il va pas être Premier ministre.
Il peut être le quinquennat, déjà.
Bon, avant de parler d'Edouard Philippe, qui n'y est pas encore, là, pour le coup, c'est Cédric Villani.
Mais oui, mais en même temps, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Parce que moi, j'ai l'impression d'être devant un film où je me dis, il va y avoir à un moment un retournement de situation. Parce que sinon, le film, il est pas terrible quand même. C'est un peu ça.
Il est pas terrible.
Il est pas terrible. Et surtout, Emmanuel Macron, qu'on soit d'accord avec lui ou non, là n'est pas le propos, c'est quand même quelqu'un qui sait où il va et qui est assez fort au niveau stratégique. Et là, on a quelque chose qui n'est pas au niveau. Et c'est bizarre, c'est suspect. Moi, je crois pour l'instant au troisième homme. Je me dis, c'est pas possible.
Moi aussi,
quoi. C'est tellement raté que c'est trop gros pour moi.
Oui, mais ça dépend comment ça va évoluer. Parce que d'abord, Villani peut engranger, on ne sait jamais. Donc je pense que le président a intérêt à regarder ce qui se passe un peu. Parce que, mais encore deux mois.
Pierre Jouvet, vous qui êtes le politique du plateau.
Non, mais je crois qu'il y a un truc à voir de près, c'est que ce qui se passe à Paris n'est pas isolé.
Oui, absolument.
C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de se passer la même chose à Lyon, où il y a une guerre terrible entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld, où le président de la République lui-même est allé sur place, il n'est pas arrivé à trancher la situation. Le problème est le même à Marseille, où on a une part des marcheurs qui souhaitent rejoindre la candidate de Jean-Claude Gaudin, Madame Vassal, et une autre partie qui veut présenter un candidat. Le problème est le même à Nice, le problème est le même à Bordeaux. Et en fait, la réalité, c'est que dans toutes les grandes villes de France, il n'y a pas d'autorité qui vienne d'en haut. Pourquoi ?
Et on vire les
Parce que le mouvement s'est construit comme ça. Ouais. Et chacun de ces hommes ou de ces femmes... Ils n'ont qu'un modèle en tête, c'est Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a raconté, Emmanuel Macron ? Macron, il disait « Prends ton risque ». Donc, ils vont tous prendre leur risque.
Bah, c'est le disruptif qui se fait disrupter.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il va se retrouver dans des situations assez complexes à gérer.
Avec une petite différence, c'est qu'à Paris, il y a quand même un rejet de l'administration en cours. Enfin, voilà, il y a un vrai rejet, ce qui n'est peut-être pas le cas dans les autres villes. Là,
je ne crois pas.
Moi, je pense qu'Hidalgo est en train d'engranger des voix. Elle a, alors, moi-même, je sais si Hidalgo n'est pas ma tasse de thé. Premièrement, elle a fait preuve d'un courage en politique qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a été contre tous, elle a tracé, elle était contre tout le monde. Elle a fait ce qu'elle voulait, enfin c'est quand même assez stupéfiant.
Ensuite, elle a gardé son cap et sa ligne.
Enfin moi j'ai jamais vu ça ailleurs. Ensuite, je me demande... Je n'y crois pas, mais je me demande si peut-être dans 5 ou 10 ans, on ne dira pas qu'elle a eu une vision et qu'elle était précurseur, parce qu'elle a passé quand même Paris aux deux roues, elle a voulu supprimer la voiture, ce qui est quand même une tendance dans les capitales. Je ne suis pas en train de la défendre, parce que je suis exaspérée, comme tous les Parisiens, mais il peut y avoir un retournement, elle est en train de se frotter les mains.
Oui, elle est porte-drapeau du PS, et le PS à Paris est en pleine déconfiture. Non, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est quand même... Le problème, c'est comment peut-elle gagner ? Bon, s'il y a une dispersion des candidats, d'autre part, le candidat écologiste, et savoir est-ce qu'il va se rallier ou pas à Hidalgo.
N'oubliez pas
quand même qu'aux européennes, En Marche a fait 32%.
Bien sûr. Justement, l'enjeu à Paris, comme c'est le vote par maire d'arrondissement et qu'après c'est le troisième tour qui compte, l'enjeu, ça va être dans cette élection, et on n'en parle pas du tout là depuis le début,
exactement,
le rôle de la droite.
Si la droite
s'effondre de la même manière qu'aux européennes dans les arrondissements parisiens, regardons dans le 7e, regardez le 6, regardez le 16, la droite s'est écroulée dans ces arrondissements.
Il y a un certain nombre de leaders de droite qui sont partisans d'une alliance avec En Marche.
Voilà.
Et moi, regardez ce qui se passe en ce moment, c'est que la droite et le centre droit ménagent considérablement Macron. Pourquoi ? Parce que tous dans leur ville,
ils ont la trouille, bien sûr. Mais vous avez raison de l'élargir. On ne reste pas sur Paris, parce que c'est assez symptomatique de ce qui va se passer pour les municipales.
En Marche n'arrive pas. Il y a une grande difficulté. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils ont gagné les élections européennes alors que tout le monde les mettait au fond du trou, etc. Enfin, moi, je suis pas présomptueux dans le moment politique tel qu'on le vit, mais ils ont beaucoup de mal à s'implanter au niveau territorial. Mmh. Ils ont beaucoup de mal. Ils n'ont pas de leader qui s'affirme. Ils ne vont pas gagner facilement des élections.
Les autres partis aussi ont du mal. Les autres partis aussi.
Si vous prenez les villes de plus de 150 000 habitants qui font le seuil des élections municipales, vous avez la droite qui est installée d'un côté, la gauche qui peut être installée de l'autre. Quand vous avez des maires sortants qui ont un bon bilan, généralement, il y a une primo sortant qui aide. Là où il va y avoir des enjeux, c'est où les maires sortants ne se représentent pas. Et c'est là où on va avoir un véritable enjeu.
Et il y en a pas mal qui ne vont pas se représenter.
Il y en a pas mal.
On va continuer ce débat avec vous. 0826 300 300. On aura Grégory avec nous dans un instant. Appelez-nous 0826 300 300. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, et nous parlons de la candidature très probable de Cédric Villani aujourd'hui à la mairie de Paris. Mais au-delà de la mairie de Paris, ce sont les municipales qui posent question aujourd'hui avec cette candidature. Vous êtes nombreux à nous dire les électeurs ne voteront pas pour des parachutés. Il faudrait déjà qu'ils habitent dans les villes où ils se présentent. Ce serait bien pour s'ancrer dans un territoire. Ça paraît être l'évidence, mais voilà. Mais c'est vrai que les municipales risquent d'être assez intéressantes d'un point de vue politique. On a Grégory en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Grégory. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Déjà d'une, une petite remarque. Macron n'a pas gagné les européennes, il est arrivé second et il était à Cagir et Modem, ne pas oublier. Pour moi, Villani, il fout un bon coup de pied au cul à Macron, mais je pense pas qu'il va aller au bout. Il va avoir de la pression et je pense qu'il va abandonner. Il va pas se présenter réellement.
S'il se présente, je pense qu'il a des soutiens et je pense qu'il ira au bout.
Hein. Oui, mais bon, après, il faudra le financement et tout ça. Et les soutiens, il n'y a pas tant que ça, je pense. Et surtout qu'il est un petit, pour moi, il est un tout petit peu perché. Moi, il a enlevé son araignée, là, déjà.
Oui, oui, oui.
Mais moi,
j'ai peur qu'il ait l'araignée dans la tête.
On ne sait pas. Parfois, il est discours un peu bizarre. Même s'il est grand mathématicien. Mais même moi, qui n'est pas du tout de gauche, eh bien, si c'est Griveaux. Hidalgo de second tour, je voterai pour Hidalgo. Je suis parisien, ouais. Je déteste Hidalgo parce que même si je fais beaucoup de vélo dans Paris, ouais. Mais je ne peux pas l'avoir. Les lobbies, tout ça derrière elle, entre les écolos et tout ça. Ouais. Mais pour moi, je ne voterai jamais pour Griveaux.
Ouais.
Je voterai jamais pour Griveaux parce qu'il est hautain, il a des discours sur les Français et tout ça, on va le dire, il pète plus haut son cul. Ouais. Et franchement, il est détestable, ce mec. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, il est détestable. Il aime pas les Français, on dirait.
Oui, c'est un peu. C'est sur le faciès.
Mais c'est ce qu'il a marqué, en fait.
Oui.
C'est son passage comme porte-parole du gouvernement, c'est sa façon d'être, c'est sa façon d'apparaître aux yeux des gens. Mais moi, Griveaux me fait beaucoup penser à une période à Jean-François Copé. C'était le vilain petit canard, le mec qui cramé, ouais, qu'on veut plus voir. Et non, mais c'est comme ça, c'est plus que de la politique, c'est au-delà de ça.
D'accord, oui, mais bon, j'entends ce que dit
même
monsieur
si
qui nous appelle, mais
pour Copé.
On peut pas être que sur des critères d'élite sale gueule. Il est hautain. Je vais vous dire, on veut voter pour quelqu'un de compétent. On s'en fout qu'il soit sympathique ou pas, qu'elle soit compétente.
Mais c'est pas ça, les élections.
Juste à rappeler une chose, contrairement à ce que le monsieur a dit, Macron a gagné les élections européennes, puisque le but des élections européennes, c'est de créer un parti au Parlement européen avec des alliances, et pour le coup, il l'a complètement gagné. C'est indiscutable.
Oui. Mais ah c'est oui. Étonnant, effectivement, de dire tout sauf.
Tout sauf Hidalgo, tout sauf Griveaux.
Oui, c'est assez.
Les gens votent contre, ils votent
pas
pour.
Tout sauf Griveaux, quand même, on n'est pas là. Et politiquement, pour Emmanuel Macron, c'est quand même un affront, puisque on a entendu Benjamin Griveaux, tout le monde dire qu'il allait se rallier. Il avait dit oui, je me rallierai, et puis finalement, il leur fait un pied de nez. Quand même.
Pour Emmanuel Macron, c'est quand même un échec. Parce que la commission d'investiture a investi à 13 voix. Oui. 13 voix sur 13 membres, Benjamin Griveaux. Donc c'est vraiment un truc unanime. Griveaux, c'est l'homme de l'appareil, c'est l'ami de
j'y
Macron.
J'y crois pas, moi j'y
non,
crois
mais,
pas.
Mais, ce qui est étonnant, c'est que Macron a reçu Villani, qui est venu pour lui expliquer qu'il serait candidat.
Parlez bien dans le micro.
Et Macron ne l'a pas dissuadé de se présenter.
Il est très aimé de Brigitte Macron.
Ceci explique cela, alors peut-être.
Non, mais c'est vrai qu'il était très apprécié. C'est une personnalité qui est très complexe. C'est d'ailleurs ce qui pose un peu problème. Mais c'est vrai qu'il y a un talent. C'est vrai que, en tout cas, comme ministre scientifique, ça aurait été parfait, etc. Mais il y a une erreur absolue de casting, là.
Et en plus de ça, moi, je ne vois pas ce que le président avait à gagner à désigner un candidat. Aujourd'hui, ce n'est plus possible.
Bah pour l'instant, son candidat, c'est Griveaux.
Je ne veux pas jouer les complotistes, mais je ne crois pas au scénario que nous avons aujourd'hui. Je n'y crois pas. Non. Pour moi, il va y avoir
Il va forcément y avoir quelque chose. Les gens sont contre les deux, donc c'est un problème.
Pour moi, c'est un leurre.
Voilà. C'est à l'heure.
Allez, on va changer de sujet. On va parler de la fraude sociale, donc qui explose. Un rapport qui a été remis aujourd'hui au gouvernement à propos de la fraude aux cotisations et aux aides sociales, donc montre des chiffres assez alarmants. Un chiffre qui peut 45 milliards d'euros. Ce qui est quand même beaucoup.
Non, mais il n'y a pas de chiffres précis.
Il n'y a pas de chiffres précis, mais parmi donc, les chiffres que le rapport, c'est 84 millions d'habitants donc, qui toucheraient, qui seraient enregistrés pour des prestations sociales, ou qui auraient la carte de sécurité sociale quand on sait qu'on est 67 millions d'habitants. Donc, c'est un sujet, on en parlait un petit peu tout à l'heure en antenne, qui revient régulièrement, c'est pas nouveau. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça?
Rien.
Ben oui.
Les
auteurs du rapport proposent des mesures radicales, voilà. Comme la fin de la carte vitale à vie. Voilà. Vous devez prouver que vous êtes toujours en vie.
Ce qui est impressionnant, c'est l'ampleur supposée de cette fraude. Bon, supposée, parce qu'on n'a pas de chiffres exacts. Et effectivement, l'inorganisation de l'administration. Qui distribue facilement l'argent, mais qui ne contrôle pas qui touche. Il y a quand même 111 millions de cartes vitales qui circulent en France pour une population de 65 millions. Voilà. Ouais. On a découvert aussi qu'on a une démographie extraordinaire, puisqu'on a 3 millions 100 000, 100 000 centenaires, alors qu'en réalité, il y en a 21 000. On a découvert aussi que les caisses départementales ne se parlaient pas du tout entre elles. Résultat, ça facilite beaucoup la fraude. Mais ce qui est important aussi, alors on est tous des fraudeurs d'abord. Hein. On est tous des fraudeurs.
Dès qu'on peut pas payer le parking, on évite de payer le ticket, c'est ça.
Voilà. Et puis, je veux dire, c'est facile de désigner l'autre, mais le travail au noir,
le travail noir,
le règlement au black. Qui n'a pas eu une facture voilà. Bon.
Là, on parle. Mais là, on parle de la sécurité sociale. On parle de. Non, il y a pas. Il y a tout. Oui, toute la.
Le travail au noir. La TVA représente une fraude qui s'élève entre 7 et 9 milliards
Alors, est-ce qu'on n'est pas excuse à ça?
Parce qu'il y a trop de charges sociales.
Oui.
On est d'accord.
Non, mais pas uniquement les charges sociales. Est-ce que nous ne sommes pas taxés partout? Dès qu'on met le pied au coin de la rue, que ce soit les parcmètres, que ce soit... On est en permanence au bord de l'illégalité, etc. Je crois que le français se
défile. Donc, il y a des choses, effectivement, des systèmes alternatifs qui sont en train de se mettre en place. Oui. Juste une histoire, une jeune femme qui vient de finir ses études d'architecte est embauchée dans un très grand cabinet d'architecte, donc très grand avec beaucoup de moyens. Elle est engagée en auto-entrepreneur. Est-ce que c'est normal? Plus en plus de jeunes aujourd'hui, et dans beaucoup d'entreprises, c'est l'auto-entrepreneuriat pour ne pas payer les charges sociales.
Excusez-moi, mais les médias sont champions.
Bien sûr.
Champions. Toutes les chaînes de télévision, les radios, etc. J'aimerais calculer les CDI. Il n'y a pas de CDI. Non, même les maquilleuses qui me racontaient l'autre jour qu'une chaîne de télévision... Je suis restée 3 ans. Je dis pourquoi 3 ans? Elle dit parce que comme on n'a pas de CDI, on pourrait se faire requalifier. Bien donc sûr. Ils nous virent au bout de 3 ans. On n'y reprenne pas. Ils nous reprennent après. Et les médias qui donnent...
C'est de la fraude fiscale.
J'aimerais déjà qu'on puisse traiter ce sujet sans... Alors là, on ne l'a pas autour de cette table, mais on l'a dans 99% des autres émissions que je puisse faire sur le sujet, des gens qui nous disent « Oui, vous ne pouvez pas dénoncer ça et ne pas dénoncer à côté la fraude fiscale. »
Oui, c'est ça.
Alors, on va arrêter avec ça. On dénonce évidemment les deux.
Il
n'y a aucun politique au monde, ça n'existe pas, qui se dit « La fraude fiscale, je m'en fous, je vais m'attaquer juste au déficit de la sécurité sociale. » Ça n'existe pas. Les syndicats qui ont ce discours mentent évidemment qu'on veut...
Les syndicats fraudes, on l'a vu.
Sauf qu'il est beaucoup plus facile, quelque part, de s'attaquer au déficit de la sécurité sociale qu'à la fraude fiscale, puisque par essence, à moins de mettre un inspecteur des impôts derrière tout le monde, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense surtout que la France a un souci de modernisation informatique des pièces. Et le problème vient de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez vous rendre sur place pour donner des feuilles qui sont perdues une fois sur deux, alors qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir envoyer un mail, c'est scanné en deux secondes. Voilà.
Oui, mais moi, on ne veut pas, je vais vous donner un exemple supprimer des gens et des emplois.
Je vais vous donner un exemple concret et très simple. Ma femme, l'année dernière, a subi une triple fracture de la cheville. Elle appelle la Sécurité sociale, elle demande quand est-ce que je vais être remboursé pour avoir le remboursement de la mutuelle après. Et on lui dit, je vous jure que c'est vrai, 6 mois. Six mois de délai, parce qu'il compte 2 mois pour scanner 2 pièces. Ouais. Et ben voilà, une fois que vous avez ce truc-là, vous comprenez que c'est pas possible. On
alors,
a un retard technologique dément.
Alors, il y a deux choses. Justement, on félicitait ce matin, je lisais qu'on se félicitait de la qualité du contrôle, puisqu'on avait détecté cette fraude. Il n'y a pas à se féliciter. Nous sommes très forts pour détecter ce qui ne va pas, et nous sommes incapables d'y remédier. Et nous sommes incapables d'y remédier parce qu'à chaque fois, la problématique est une fonction publique que je désigne. Oui, parce qu'elle est pléthorique et que très souvent on propose des solutions qui feraient que y a des suppressions d'emplois et c'est extraordinaire, on garde des contrôles manuels, etc. à cause de tout ça, et donc nous ne sommes pas capables de mettre en place les solutions, et ça c'est un problème majeur de l'État français.
Alors c'est d'où vient le problème ? Est-ce que c'est l'administration ?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, ce que dit Mathieu est très juste, et c'est bien qu'on prenne le débat comme ça. On n'oppose pas la fraude sociale, la fraude fiscale. Oui. Ça, c'est très bien de le prendre sur ce biais-là, parce que sinon, c'est un peu toujours le même débat, c'est un peu le même registre, c'est salaud de pauvre ou salaud de riche, quoi, grosso modo. Donc, il faut qu'on apaise le truc. L'élément central, c'est qu'on a un retard considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre administration, elle est totalement désuète.
Retard volontaire.
Et alors, je ne sais pas si c'est un retard volontaire. En tout cas, ce que je crois, c'est que les suppressions de postes, parce qu'il y en a eu dans la fonction publique, n'ont pas été faites aux bons endroits. C'est-à-dire qu'en fait, des postes qui servent pour les personnes, par exemple, l'exemple que tu donnais pour ta femme, aujourd'hui,
l'hôpital aussi,
ou l'hôpital public, on a supprimé des postes à ces endroits-là et on a laissé des postes, excusez-moi du peu, hein, c'est un peu ma marotte, mais on a laissé des sous-préfectures partout en France qui servent à que dalle, bon, et qui coûtent des millions d'euros chaque année. Donc il y a un moment, soit on fait une modernisation totale de l'État français, où on reprend territoire par territoire pour voir comment est-ce qu'on peut fonctionner. Ouais. C'est ce que vous disiez aussi, on fait parler de département à département.
Moi, la France sera en grève.
Non, je ne crois pas, parce que je pense que les évolutions...
Qui peut faire
elles,
ça
non, parce que je pense que les évolutions, elles sont aussi attendues par les personnels de la fonction
publique.
Non,
mais là, il y a des manifestations et des millions de gens dans,
la rue.
Il n'y a qu'à voir le discours des syndicats sur ce sujet.
Non, mais je ne crois pas. Voilà. Mais le discours des syndicats est affaibli. Je ne crois pas.
On a Cécile en ligne avec nous. Bonjour Cécile.
Oui, bonjour, bonjour Valérie, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver, vraiment, c'est un peu long, hein, c'est comme les vacances scolaires. Là, j'étais en apnée, limite de la sexy sans vous.
Oh, c'est gentil, écoutez, bienvenue sur Sud Radio,
même
merci de nous être fidèles.
Ah oui, bien sûr Sophie,
oh,
même si voilà, on n'est pas toujours d'accord.
J'étais très déprimée. Alors allez-y, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces chiffres
Oui, alors ces chiffres, vous savez, moi j'ai retrouvé là des documents, notamment des articles de Capital qui datent de décembre 2018, c'est absolument pas nouveau. Madame Goulet, sénatrice de l'Orne, avait déjà demandé et obtenu d'ailleurs de donner un rapport, mais qui a été refusé ensuite par l'Assemblée, elle est sénatrice, donc voilà, et l'Assemblée nationale avait refusé, et ces chiffres déjà avaient été communiqués par Charles Prats. Charles Prats, un magistrat spécialiste des finances publiques, hein, qui est à l'Institut Vauban. Et voilà, notamment, hein, évidemment, alors parmi toutes ces cartes vitales qui sont, il y avait vraiment des cartes vitales faussement attribuées, vous le disiez, il y a quasiment deux fois plus de cartes vitales que d'habitants en France, mais je voudrais insister sur un sujet un peu sensible, c'est vrai, mais il faut le dire aussi, ce sont les cartes vitales attribuées à des étrangers, mais en situation légale, hein, je ne parle pas là de situation illégale. Ce sont des cartes qui sont attribuées souvent sur de faux documents administratifs, c'est-à-dire que elles sont attribuées uniquement manuellement par la Sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un numéro d'identification est créé pour... Et puis alors, ces cartes vitales, évidemment, elles donnent droit à toutes les prestations sociales, hein, maladie, retraite, allocation familiale, RSA. Donc, c'est pas rien. C'est important. Et en fait, il suffit de fournir des papiers du pays d'origine qui peuvent être faux. Hein, ça, on a... si on les contrôle pas, voilà. Et donc parmi toutes ces fausses cartes vitales, il y a celle-ci. Ça fait quand même un coût de 14 millions d'euros. C'est pas rien. Voilà. Donc ça, c'est une des choses.
Mais c'est pas forcément la sénatrice Goulet à laquelle vous faisiez allusion dit c'est pas une fraude de pauvres, mais de réseaux organisés.
C'est ça.
On parle de réseaux.
C'est là où
l'administration n'est pas à la hauteur et n'est pas au niveau.
Mais exactement.
Vous voulez conclure, Cécile ? Pardon.
Oui. Non, je voulais conclure pour dire que en réalité. société. Je crois qu'en effet, il s'agit aussi de transmettre les infos. Il me semble que c'est, ça devrait pas coûter très très cher, hein. Bien sûr, de pouvoir faire contrôler ces réseaux. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que, vous voyez, ça date de 2011, Pratt, hein, qui a donné ses premiers chiffres. Ensuite, 2018, ça fait 9 mois. Maintenant, le rapport a été donné, mais tout le monde a l'air de s'étonner. Mais en réalité, c'est un sujet très important. Et on peut récupérer de l'argent.
Ouais.
On peut
mais ce que vous dites, Cécile, est très juste, oui. Et c'est le cas pour les violences faites aux femmes, c'est le cas pour les enfants en situation de handicap. Ce sont des sujets, bon, il se trouve que j'ai un peu roulé ma bosse, j'ai l'impression, et on parlait avec Arlette Chabot, que ce sont des sujets dont on parle depuis 20 ans. Depuis 20 ans, les violences faites contre les pompiers en 2000, moi j'en ai entendu parler sur LCI, les problèmes de scolarisation. Mais oui, mais pourquoi rien n'est fait ? On a un énième rapport qui nous dit, oui, voilà, il y a des fraudes.
Mais il se passe quoi ? Pourquoi rien n'est fait ?
Il n'y a pas de volonté politique.
Parce qu'il y a juste deux possibilités, il y a deux scénarios et personne ne le dit. Soit vous allez vers un scénario ultra-libéral où on décentralise tout, tout est privatisé, tout est géré à l'extérieur, soit il y a le scénario danois où on augmente les impôts, il y a plus, une assiette beaucoup plus large, puisqu'on n'a que 42% des foyers français qui payent des impôts, et à ce moment on a un État fort.
Non, on a déjà eu une révolte contre la peau des pauvres, entre guillemets.
Mais dire maintenant qu'il y a une troisième possibilité, cette troisième possibilité n'existe dans aucun pays au monde.
C'est pas nouveau, cette fraude. On a un énième rapport qui nous dit il y a des fraudes, il y a des choses qui vont pas. Qu'est-ce qu'on fait ?
Mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je crois qu'il faut reprendre les sujets avec un peu de bon sens. Ouais. On a évoqué tout à l'heure la fraude notamment sur le travail au black ou encore sur le système des auto-entrepreneurs. Enfin, on est sur un moment où il faut reprendre les sujets. Quand on voit le nombre d'auto-entrepreneurs, alors je mets de côté, il y a la question auto-entrepreneur profession intellectuelle, auto-entrepreneur profession manuelle.
Les auto-entrepreneurs,
c'est terrible, les auto-entrepreneurs profession manuelle, c'est pour échapper aux charges, mais ils font couler des boîtes entières dans notre pays, et on laisse s'organiser du black, et après on va faire croire qu'on veut s'attaquer à la fraude.
Mais,
en vérité,
alors, d'un autre côté, il faut savoir, parce que je dirige un mouvement patronal et c'est terrible, nous en parlons sans arrêt, il faut savoir qu'il y a des boîtes qui n'ont pas les moyens de recruter salariés chargés, entre guillemets. Elles n'ont pas les moyens, donc elles prennent effectivement un auto-entrepreneur. Elles lui demandent au moment du recrutement, est-ce que vous pouvez monter votre boîte ? C'est une question maintenant qui est systématique.
Il y a juste un petit souci, c'est que sur certaines des activités que j'ai, je suis auto-entrepreneur. Oui. Maintenant, moi je veux bien, condition qu'on m'augmente ce qu'on me donne. Oui, parce que c'est moi qui paye les charges. Problème, c'est qu'on donne exactement la même somme, sauf que c'est la personne qui travaille qui paye les charges.
On se retrouve dans un instant. Et puis, il y a un aspect de ce rapport qui est intéressant, c'est que ce sont les professions de santé qui sont aussi celles qui fraudent le plus. C'est l'exemple d'un médecin qui est allé en EHPAD et qui a facturé je ne sais combien de milliers d'euros.
Il a visité
dans le micro, on vous entend.
Ce médecin est allé dans un EHPAD où il a ausculté 40 personnes âgées.
Ausculté
ou pas. Et il a facturé 40 déplacements.
Oh là là.
Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Thierry avec nous, 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et nous parlons de la fraude sociale qui explose. Alors il y a aussi la fraude fiscale, mais on a bien expliqué. Alors Mickaël, je voudrais juste vous répondre. Vous dites que Sophie de Menton vient d'avouer que l'utilisation frauduleuse, elle dénonce le fait de l'auto-entrepreneuriat. Et les gens ont été choqués, parce que vous avez dit à un employé chargé. Ça veut dire qu'un employé, oui, ce sont des charges pour une entreprise.
C'est un terme qui est utilisé
un employé, c'est une charge pour le patronat français. Je pensais que c'était des collaborateurs qui permettaient de développer une situation.
Alors, ce n'est pas frauduleux.
Si vous permettez, je vais quand même expliquer. On appelle tout simplement langage, nos experts comptables disent quel est le prix du salarié chargé. Ça veut dire quel est son salaire
avec
les charges sociales, qui est quasi, vous avez 1000 euros dans votre poche, ça coûte à au patron à peu près 1900.
Bon. C'est le double.
Donc, il est vrai que c'est partout et que nous le regrettons infiniment. Et d'ailleurs, les gens qu'on recrute sont d'accord. On leur dit, est-ce que vous avez une structure ? Ils disent oui, quitte à avoir d'ailleurs deux clients et que ça coûte moins cher à l'entreprise. Ce qui est scandaleux, c'est que par contre, effectivement, l'auto-entrepreneur paie aussi des charges. Mais ce n'est pas possible de faire une telle différence et que ce soit tellement avantageux de recruter dans une boîte un salarié
Comme le disait Mathieu, c'est-à-dire qu'on vous propose le même salaire.
Exactement. Les charges. En fait, les charges 22,5% de charges.
22,5% de charges.
Sacha nous dit, je pense que tout est une question d'organisation. Les services publics sont complètement désorganisés. Plus personne ne contrôle quoi que ce soit. Et le système permet à certains de voler presque légalement sans aucun scrupule. Vous évoquiez, Christian, ce père de 70 enfants.
Oui, qui effectivement avait déclaré ses enfants dans différents départements. Et comme il n'y a aucun contact.
Non, mais alors, il y a peut-être un problème de contrôle, mais moi, je pense qu'il y a vraiment un problème d'organisation. Ouais. Aujourd'hui, vous avez d'un département à l'autre. Vous n'avez pas il y a pas de discussion.
Il y a pas de croisement des données,
Moi j'habite dans la Drôme, à Saint-Vallier dans la Drôme, juste en face de chez moi. Je traverse un pont, je suis en Ardèche à 2 minutes à pied. Eh bien les deux administrations n'arrivent pas à se parler, administrations fiscales n'arrivent pas à se parler. Donc en fait aujourd'hui, on a une administration qui est totalement désuète par rapport à un fonctionnement qui est un fonctionnement qui date des premières lois de décentralisation et qu'aujourd'hui on doit complètement reprendre. Et ça permettra non seulement de réguler les problèmes de fraude, quels qu'ils soient, ça permettra aussi de donner et d'apporter plus de conseils aux gens et ça permettra surtout, moi je crois, de réconcilier les Français avec leur administration.
Et de démanteler les réseaux mafieux. En Chine, aux États-Unis ou en Corée du Sud, on en est à faire des robots, on travaille sur l'intelligence artificielle, on construit des véhicules autonomes, mais en France, c'est le village d'Astérix, on ne sait pas ce qu'il y a des documents.
Dans le rapport, Sophie, dans le rapport, j'ai appris que les cartes vitales ne peuvent être désactivées par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un étudiant étranger qui vient en Erasmus et qui repart après son séjour conserve une carte vitale active. Donc comment on n'est pas capable de faire ça?
Alors, on est capable, simplement. Le problème, c'est qu'on ne se réforme pas soi-même. L'administration, il faudrait qui pourrait par exemple faire que dans ce département ils se parlent, qui pourrait? Je pense que ça ne peut être confié pardon chers auditeurs, qu'au privé. Il y a des boîtes spécialisées dans la réorganisation. Il y a des boîtes spécialisées. Il faut quelqu'un qui dise voilà comment
on fait.
Non,
il faut juste une volonté politique.
Mais la volonté
qui? Il n'y a pas l'argent, de toute façon.
Non, mais c'est même pas l'argent. La volonté politique, elle descend. On a des strates. Elle descend d'en haut et au fur et à mesure qu'elle descend les strates, il n'y a plus de volonté politique arrivée en bas.
On a Thierry en ligne avec nous. Bonjour Thierry.
Oui.
Bonjour, on vous écoute.
Oui. Je suis un petit peu ému de prendre la parole.
Bah non, ne soyez pas ému.
Je rejoins le raisonnement d'un de vos intervenants qui disait tout à l'heure, il y a 10 minutes, que la France ne sait pas s'organiser, la France ne sait pas prendre des décisions quand c'est le moment. La preuve, c'est que quand ils ont distribué des primes pour l'achat de véhicules propres, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui achetaient des voitures à 60 ou 70 000 euros. Et c'est quand on a le problème devant le nez qu'on réagit. Mais on ne réagit pas en plus, que font nos fonctionnaires? Il n'y a aucun moyen de contrôle. Et la sécurité sociale, c'est pareil. L'intervenant qui a raconté que sa mère a eu un accident et qu'il fallait qu'il attende 6 mois, sa femme a eu un accident et qu'il fallait qu'il attende 6 mois pour avoir les renseignements. Mais moi, je suis en train d'arrêter de travailler, de prendre ma retraite. Ça fait plus de 6 mois que l'organisme a mon dossier. J'ai déposé, pour vous donner un exemple, j'ai déposé le début de mon dossier le 9 janvier. Le dernier document qu'ils attendaient, c'était mon attestation carrière longue pour que je puisse partir plus rapidement. Ils l'ont eu le 15 mars. Depuis le 15 mars, ils ne m'ont justifié ma retraite que le 26 juillet. Alors, entre le 9 janvier et le 15 mars, qu'est-ce qui a été fait sur mon dossier? Puisqu'on me dit que le dossier doit être traité en 2 mois. Mais qu'est-ce qu'on a fait de janvier à mars? On a attendu le dernier moment.
Merci Thierry.
C'est terrible, parce que moi, je vais le dire, que je le vois Pierre en tant qu'élu local. Dans mes permanences que je fais souvent des permanences
et socialiste en plus.
Et socialiste. Non mais moi je vois les gens qui viennent me voir. Mais c'est toujours, allez, un cas sur deux, c'est un problème d'administration.
Terrible.
Et exactement ce que le monsieur vient de décrire, mais on n'y arrive pas. Vraie question,
parce que j'apprécie complètement tout ce que vous dites. Est-ce que c'est pas quand même le socialisme et la gauche qui a beaucoup entretenu cette fonction publique qui ne se réforme pas
Non, je crois pas parce que je pense que c'est parce que moi je défends la fonction publique.
Mais moi
je la défends. Mais ce que je pense, c'est qu'on doit la réorganiser complètement.
Oui, mais comment alors simplifier. Accepter que ce soit le privé.
Parce que le public est en capacité d'organiser aussi bien que
vous savez bien qu'en France, quand quelqu'un fait mal son travail dans une entreprise privée, ce n'est quasiment jamais un motif de licenciement. C'est très compliqué. C'est donc imaginons ce que c'est dans le service public.
C'est pas possible.
C'est pas possible. C'est un mur.
Mais,
voilà.
Mais c'est la responsabilité de chacun d'entre nous.
La carte vitale, est-ce que ça, c'est un gadget proposé? C'est-à-dire, voilà, on fait semblant de faire quelque chose, est-ce que ça va changer quelque chose? Les fraudeurs, ils vont savoir comment justifier d'un état civil, même faux. Mais c'est vrai que donc limiter la carte
surtout
vitale.
Surtout que le chiffre est pire parce qu'on. Il y a combien de cartes vitales en sécurité?
111 millions.
Oui, sauf
111 millions.
Que normalement, les enfants n'ont pas besoin de carte vitale. Je crois que c'est après. Oui.
Donc en absolument, fait, donc c'est même pas 66 millions.
C'est même pas 65 millions, c'est beaucoup moins en fait. Oui, on ne rien faire ou
après,
ça, autant faire ça.
Après, voilà. Normalement, il y a un numéro de sécu. Le numéro de sécu correspond à chaque.
Oui, mais je crois qu'il y a encore beaucoup plus de numéros de sécu que de toilettes en France. Non, mais je crois que l'une des questions, c'est le démantèlement des réseaux.
Moi, je voudrais savoir quel est au sein du gouvernement. Non, la personne fini, concernée. Fini. Quel est le ministre concerné?
Oui, c'est vrai.
Parce que vous
on
dites,
a des
Dominique.
Auditeurs qui nous disent qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable. On a ça, une fraude ça. Énorme. Bah, il y a pas...
Le ministre en charge de ça, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin et
est-ce que c'est pas le ministre
vous
de la
pourrez
santé
pas répondre, Sophie, mais ça Sacha me demande pourquoi le privé serait plus intelligent que le public.
Je pense que c'est Gérald
Darmanin. Parce que ce ne sont pas les gens qui peuvent se réformer eux-mêmes.
Allez, on se retrouve demain. Et dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous. Bonne journée sur ce plateau.
Bonne journée.